Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi. En RDC, de nombreux diplômés d'enseignement supérieur et universitaire sont confrontés à un sérieux problème d'insertion professionnelle. La plupart de ces diplômés éprouvent des difficultés pour trouver un emploi correspondant à leur formation par manque d'expérience professionnelle exigée dans la majorité d'offres d'emploi. Certains d'entre eux, pour des raisons de survie, se retrouvent dans les secteurs informels. Pour certains experts, cette situation est due à l'inadéquation entre la formation et les marchés d'emploi. L'université ne prépare toujours pas les jeunes diplômés aux exigences du travail, ce qui crée un décalage entre les compétences et les besoins des entreprises. Actuellement, affirment aussi les experts, la solution passe par la formation des jeunes dans le management et développement, d'où la création en RDC depuis près de deux décennies d'une institution spécialisée dans le management dénommée CEPOMA, des centres de promotion en management et développement. Selon son promoteur, ce centre a pour vocation de former des créateurs d'emplois grâce à la formation apprise en management et en développement. À ces jours, il existe en RDC un réseau d'universités d'ISOPOMAD dont les étudiants, une fois les études achevées, sont outillés pour devenir de vrais entrepreneurs. Que pensez-vous de l'apport du réseau des universités d'ISOPOMAD dans la création d'emplois en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9786-8079. Toute l'équipe de production est bel et bien là pour assurer en direct ce magazine. Nous avons Patrick Kassongwa qui est là. Nous avons également Paul Badianam pour l'équipe multimédia et aussi Diedonné Nyangasa. Et à la réalisation et la coordination de ce magazine, Julie Feza Bongonda au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur les plateformes digitales de Radio Okapi, à savoir YouTube, X et Facebook. Et aujourd'hui, nous parlons de l'apport du réseau des universités du CEPROMA dans la création d'emplois en RDC. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci. Nous aurons l'occasion, en tout cas, de lire quelques-unes de vos réactions. Et je rappelle le numéro pour ceux qui aimeraient intervenir en direct, composé le 09-769-80-79. Et pour aborder ce sujet sur l'apport des universités du CEPROMA dans la création d'emplois en RDC, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios le professeur émérite Oscar Tsaman Olutu. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes recteur magnifique, président du conseil d'administration des universités d'ISOPOMA, d'entendez, centre de promotion, management et développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on va s'apesantir sur la formation en management et développement, en tout cas qui fait partie de la vision d'ISOPOMA. Et avant d'entrer dans les vues du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement de la genèse d'ISOPOMA, qui, il faut le dire, existe déjà il y a près de deux décennies, hein?
La genèse du CEPROMA, mais c'est une longue histoire.
Mais faut juste, mais c'est de résumer.
Oui, je résume.
Oui.
Et ça cadre avec le principe du fonctionnement du CEPROMA à ce moment précis.
Oui.
C'est-à-dire, la genèse, ça part de Maxwell School of Management, qui est une école d'administration aux États-Unis. La meilleure, c'est-à-dire School of Management, Maxwell School of Management, est à l'administration publique ce que Harvard est à management privé. C'est-à-dire, la School, Maxwell School, c'est le loyalisme. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, c'est la politique. C'est le public. Public policy. Mais pourtant, Harvard, c'est le business des affaires, ainsi de suite. Alors, les sepromades, c'est aussi plus le business. Alors, pourquoi? Parce que, au moment où on a nationalisé l'enseignement supérieur pour créer l'INASA, l'objectif était de former des cadres loyaux d'une façon politique. Mais seulement, les sepromades, lui, le management, avait une orientation tout à fait privée. C'est pourquoi le management, le sepromades a été pistonné par l'ANESA, AFEC, qui déjà à partir de Lubumbashi a signé des contrats avec nous pour que nous puissions passer dans toutes les provinces à animer la formation pour la petite et moyenne entreprise. Donc, apprendre aux gens l'esprit d'entrepreneuriat. Partant de là, nous avons commencé, mais il s'est fait que c'était à l'époque où l'univers, le privé ne pouvait pas former l'université, ne pouvait pas créer un institut supérieur. Mais nous, on s'est contenté tout simplement de former des cadres dans les entreprises. Et puis, on l'a fait, mais cela a tellement mordu et ça a tellement plu à l'ANESA, à telle enseigne que nous avons dû entreprendre les démarches ensemble pour arriver, grâce à certains députés du Katanga, à ce moment-là, Mulongo Micha, et ainsi de suite, pour arriver à décrocher la grande décision numéro 75/CC qui a autorisé du bureau politique pour pouvoir libéraliser l'enseignement supérieur. C'est à ce moment-là que le sepromades est devenu université et que toutes les universités privées ont commencé à fonctionner.
Et il faut le rappeler, l'ANESA, c'est à l'époque du Zaïre, l'Association nationale des entreprises du Zaïre, qui est devenue aujourd'hui la FEC,
Fédération des entreprises du Congo. Voilà, exactement. Oui. Donc, les sepromades, c'est une orientation business, orientation opérationnelle, orientation argent, orientation comment se suffire, comment entreprendre, ainsi de suite.
Aujourd'hui, c'est un vaste réseau qui est implanté à travers tous les pays.
Oui, c'est-à-dire, si nous revenons à notre préoccupation, on dit quelles sont les stratégies opérationnelles pour la création des emplois à l'université de sepromades. C'est-à-dire, nous sommes venus, moi j'ai été formé à Maxwell School, Syracuse University, aux États-Unis. J'ai MBA. MPA, Management of Public Administration, et puis j'ai MBA, Management of Business Administration, avant de faire un PhD en management. C'est-à-dire, partant de là, former l'objectif, nous avons adopté en principe le principe de l'opérationnalisation. Comment lancer une entreprise? Pour quel objectif et comment? À telle enseigne qu'en résumé, je veux vous dire ceci. Comment l'université du sepromades contribue pour former
les entrepreneurs?
Des entrepreneurs. Nous disons, en résumé, en français facile, ici, quand quelqu'un entre à l'université du sepromades, 3 semaines, et plutôt 90 jours après, il doit être capable de se débarrasser de Pesangai, Kabelangai, ainsi de suite. Jamais dire à son père, donnez-moi le ticket ou à sa mère pour aller à l'université, ainsi de suite. Parce que quand on va à l'université, vous savez que dans notre système, on est quelque peu infantilisé. Je vais revenir là-dessus. Donc, 90 jours après avoir pris votre inscription à l'université, vous devez être capable de payer votre ticket, aller à l'université par vous-même, par la sueur de votre front, et aller payer les syllabus.
Donc, ça veut dire que 3 mois après la formation, vous apprend déjà comment créer des sources de revenus?
3 mois pendant que vous êtes à l'université, vous prenez votre inscription en droit, en médecine, en économie et tout ça. Trois mois après, on vous met dans un programme qui fait que vous soyez capable de pouvoir générer des fonds qui vous permettent de payer ne fût-ce que votre ticket pour aller à l'université. Donc vous libéralisez, vous rendez déjà autonome. Deuxième aspect, dès que vous terminez à l'université du CEPROMAD, dès vous avez votre diplôme, un mois après, vous devez avoir au moins quelqu'un qui travaille pour vous. C'est-à-dire une ou deux ou trois personnes qui travaillent pour vous. C'est-à-dire vous avez créé déjà votre petite entreprise. Et cela se fait comment? Ça signifie, de un, quand on entre à l'université, on est placé dans un incubateur pour vous apprendre comment il faut faire. Nous allons y revenir. Et quand vous sortez de l'université, avant d'avoir votre diplôme,
Moi d'expliquer parce qu'il faut y aller. Hein, l'émission, le temps passe vite. Quand vous parlez, vous vous placez dans un incubateur, c'est-à-dire.
Oui, j'y vais.
Oui.
Donc, quand vous terminez à l'université, le sujet de votre mémoire doit être bancable. À telle enseigne que les étudiants qui sortent sont déjà engagés pendant qu'ils sont à l'université, grâce aux sujets pragmatiques qu'ils sont en train de choisir. Donc, on ne choisit pas des sujets comme le soleil est bleu, c'est tout. Non. Il faut dire comment faire de l'argent dans ce cadre précis. Ce sont les deux principes. Maintenant, d'une façon pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, parce que on est quand même dans un cadre universitaire, je vais le dire, il y a quelques points essentiels. De un, l'université du CEPROMAD se fixe un objectif tout à fait stratégique. L'objectif stratégique, c'est quoi? L'objectif stratégique, c'est dire pourquoi on va à l'université. Je vais à l'université pour devenir quoi? Pour devenir fonctionnaire. Je vais à l'université pour avoir un diplôme, devenir avocat. Je vais à l'université pour être sociologue, pour quoi faire? Je vais à l'université pour être agronome, pour quoi faire? Etc., etc. Ça, c'est l'objectif général. On forme pour quoi faire. Alors, dans le cadre de notre enseignement traditionnel, classique, il y avait un slogan. La science sans conscience
n'est que ruine de l'âme.
Voilà. Ça, c'est la base de notre formation. Mais quand l'université du CEPROMAD s'amène avec son esprit anglophone, nous changeons. Nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs.
Justement, c'est ça l'intérêt de ce sujet. Formez des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. Vous essayez de voir comment, après avoir fini au niveau du CEPROMA, d'arriver à créer ses propres sources de revenus. Mais le secret, c'est lequel? C'est la formation en management et développement, c'est ça?
Oui, la formation, c'est le secret, c'est la formation en management stratégique. Alors, je vais dire ceci.
Oui.
Comment est-ce que, je vous ai dit, en 90 jours, il faut trouver de l'argent pour pouvoir payer son ticket? C'est dire, en fait, que quand on vient à l'université du CEPROMAD, allez-y, l'esprit de croire que je m'attends à un salaire à la fin du mois. Parce que le salaire n'est rien d'autre pour nous qu'un stage professionnel pour pérenniser la pauvreté. Donc, si vous allez à l'université, pour qu'à la fin, on puisse dire, on doit m'engager, on doit faire ceci, cela, pour avoir un salaire, non. Mais, on va à l'université pour faire quoi? Développer des compétences qui vous rendent autonome et qui font que votre formation universitaire puisse éventuellement vous former. Alors, concrètement,
oui,
ça signifie quoi? Concrètement, les CEPROMAD créent des emplois à l'entrée de l'université. On entre à l'université, vous êtes en droit, vous êtes dans tout ce qu'on... Il y a ce qu'on appelle service d'orientation. À ce moment, on demande votre historique. qu'est-ce que vous avez fait au secondaire? Les gens commencent à se définir et puis on développe d'une façon stratégique. Stratégique, c'est-à-dire définir en fonction d'un objectif, et l'objectif doit être quantifiable, mesurable et palpable. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait au secondaire? Vous avez par exemple fait l'agronomie. Et maintenant, à l'université, je me trouve en droit. Vous voyez la dichotomie. Ce qui est possible. Alors, pour nous, dans le cycle normal, le cycle habituel, c'est tout à fait normal. Quand il termine, il sera agronome, il sera juriste, et ainsi de suite. Mais à l'université, il se promène, on va dire, alors, votre formation de base, là, quel est le petit métier que vous pouvez éventuellement faire pour vous donner l'argent en 90 jours? Le gars dira, j'ai fait l'agronomie, mais quels sont les métiers d'agronomie? Là, on définit. Par exemple, il peut être fleuriste. Vous entendez? Fleuriste. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand vous partez le long des routes ici, il y a des pépinières. Vous voyez, il y a des pépinières, des jeunes gens qui sont en train de travailler. Alors, nous allons dire, celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il aime bien devenir fleuriste. On va les mettre ensemble avec les gens qui sont en train de préparer des pépinières d'entreprise, là. Les pépinières plutôt des pépinières le long des routes pour voir dans quelle mesure il peut vendre et avoir un peu d'argent. Vous m'avez compris? Là, il a développé ce qu'il y a eu. Je donne un autre exemple. Vous êtes en droit, mais seulement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la mécanique au secondaire. On demande quel est le travail que vous pouvez éventuellement faire pour pouvoir avoir un peu d'argent et commencer à venir à l'école. Là, il dit, mais moi j'ai fait la mécanique, mais je peux devenir chauffeur. Ok, nous avons un programme de formation à court terme, et nous sommes en contact avec ce qu'on appelle école de chauffeurs. Notre étudiant, qui est étudiant en droit, va prendre l'inscription au programme pour qu'en 3 mois, qu'il ait un permis de conduire comme chauffeur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive à la maison, quand le père s'est trouvé dans les parages de 60, 65 ans, où il n'a comme intérêt que sa chère épouse, quand il arrive fatigué, il laisse la voiture en train de traîner, le gars arrive, il prend le véhicule, il sort avec, mais où est-ce qu'il est parti? Il est sorti avec la voiture, mais qu'est-ce que c'est? Il va casser ma voiture. L'enfant est parti, mais quand il arrive quelque part dehors, il va vers Mongafula. Mais moi aussi, je vais aller à Mongafula. Je vais vous prendre, mais seulement, il faut foutre un ticket. Il faut foutre essence. Ça y est, il prend 2, 3. Quand il revient le matin, au lieu de dire, maman Pesanga, c'est lui qui prend l'argent, maman, voilà un peu d'argent.
Voilà, professeur, on a compris.
Vous avez compris.
On a compris, si vous voulez.
Nous avons créé l'emploi.
S'il vous plaît, si vous avez créé l'emploi, on a compris, parce qu'il faut qu'on avance. On a beaucoup de témoignages, en tout cas de ceux qui sont passés par ces promades, qui aimeraient également intervenir. Également, des réactions sur notre page Facebook. Là, par exemple, Chrysostome de Boaka qui nous écrit, en tant que produit de ce promade qui s'organise, je suis un témoin vivant de l'impact concret positif de cette institution sur la jeunesse congolaise. Ce promade forme des bâtisseurs de demain, aptes à transformer leur environnement par l'action, l'innovation, l'entrepreneuriat. Autour de moi, plusieurs anciens disciplomates brillent aujourd'hui par leurs initiatives dans différents secteurs. Les diplomates forment des créateurs d'emplois, pas seulement des chercheurs d'emplois. Voilà, on va ouvrir le standard pour recueillir les avis des auditeurs par rapport au sujet du jour sur l'apport du diplomate dans la création d'emplois en RDC. Si vous voulez intervenir, composez les zones 9-66-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Sylvain Guénoff qui nous appelle depuis Mayagi, Naomi Munganga qui est à Kisangani, mais aussi Glody Wanganga qui est à Kinshasa au Bandonville. Il va nous préciser. On y va avec Sylvain Guénoff depuis Mayagi. Sylvain, vous avez la parole. Allez-y.
Je voudrais d'abord saluer le professeur, magnifique, le prof Saman. Comme vous l'avez dit, nous sommes ressortissants du réseau Sepoma. Moi, j'ai fini à Bounia. Alors, je voudrais dire, un jour, le président de la République dit dans une foule que l'État congolais n'a pas la capacité de donner l'emploi à tout le monde, à tous les jeunes. Les gens se sont fâchés, les gens l'ont taxé de démagogue, mais la réponse se retrouve auprès du prof Saman. avec les réseaux CEPROMAT. Le problème, c'est que nous avons eu des universités dans ces pays qui ont formé des théoriciens et qui ne savent pas pourquoi ils sont allés à l'université. Je voudrais pas prendre beaucoup de temps, mais peut-être je profite pour échanger avec mon père scientifique, le prof Saman.
Oui.
Puisque c'est vrai, aujourd'hui, les réseaux CEPROMAT existent. Mais est-ce qu'il se raconte du fait que, puisque j'ai lu aussi quelques intervenants dans notre groupe ensemble de paroles auditeurs, est-ce que l'objectif est en train d'être poursuivi effectivement par les équipes qui sont mises à travers les pays? Effectivement, nous, quand nous nous étions formés, moi j'ai fait la spécialité entrepreneuriat et le jour où j'ai fini ma licence, j'ai présenté un travail sur l'ambition entrepreneuriale d'un parti politique. Et aujourd'hui, tout le monde sait que moi, je suis dans l'entrepreneuriat politique, je suis dedans plongé, puisque je ne suis pas formé pour aller à gauche ou à droite, être instructif ou rester commander l'emploi. La vision de l'enseignement universitaire, puisque nous parlons de l'apport du réseau du CEPROMAT en RDC, c'est quoi? Le ministère chargé de cette fois de l'enseignement supérieur universitaire, tient-il compte du fait que rien ne sert aujourd'hui de continuer à produire des théoriciens inutiles, mais de produire des personnes qui viennent répondre au problème primaire du Congo, qui est le problème d'emploi ou le problème de chômage? Puisque, M. Marcel, je vais laisser la parole à ce que d'autres interviennent. Moi, si j'ai intervenu, c'est juste pour donner témoignage de ce que le prof dit. Je sais qu'après l'émission, j'aurai le contact de mon père scientifique, le prof Saman. Le problème aujourd'hui, si le Congo souffre, même si on envoie un ange, si nous n'arrivons pas à adapter les enseignements universitaires aux problèmes réels du Congo, aujourd'hui, c'est plus de 80% des Congolais, des jeunes, sont dans le chômage. Mais nous produisons des diplômes chaque jour et des gens qui viennent encore déranger les parents pour qu'on les achète des babouches, des sous-vêtements, excusez-moi. Tout simplement, puisqu'on a fait 5 ans à l'université, ça y est. Je m'arrête là, monsieur Marcel, par respect à mon père scientifique, le prof Saman.
Merci Sylvain. On va poursuivre avec d'autres réactions des auditeurs. En attendant, on va rappeler le numéro d'appel. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Si vous voulez intervenir, composez 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va poursuivre avec nos auditeurs. On pourra revenir à nos réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a, je le dis, beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Mais pour l'instant, après avoir écouté Sylvain Ganoff, on va écouter Naomi Munganga. Naomi, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour.
Bonjour Naomi, vous êtes en ligne depuis Kisangani, on vous écoute.
Alors, merci beaucoup. Je suis diplômée de l'université du CEPROMAT depuis l'année passée. Et s'il faut parler de l'apport qu'a le CEPROMAT grâce à la création d'un stage, je dirais même que je suis l'exemple parfait. Oui. Puisque dans l'attente du concours au barreau qui se lance déjà pour 2026, je peux entreprendre, entre autres, dans l'agriculture, certains projets grâce aux enseignements sur le management et le marketing, puisque ça m'a aidé à créer mon entreprise et ça m'aide jusqu'à présent à comment gérer cette entreprise.
Donc voilà, ça c'est votre témoignage par rapport à cette formation suivie au CEPROMAT de Kisangani, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Donc là maintenant, vous avez pu créer votre propre entreprise, c'est ça?
Oui, voilà, je peux créer mon propre entreprise.
Voilà, merci beaucoup Naomi Munganga d'avoir appelé depuis Kisangani. On pourra revenir à Sylvain Gano parce qu'on n'avait pas très très bien fini d'échanger avec lui parce qu'il avait évoqué cette question de savoir si les équipes du CEPROMAD, maintenant que le CEPROMAD est implanté à travers tout le pays, si partout à travers le pays, toutes ces équipes restent dans la vision initiale du CEPROMAD. On va poursuivre avec les auditeurs. Maître Patrick Udia nous appelle depuis le Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité qui est le promoteur de CEPROMAD et à tous les auditeurs de la radio Capi. Cette thématique relance le débat sur le rôle que peut jouer le gouvernement dans un environnement où le secteur économique est pris en charge par, je vais dire, dans l'informel, on peut dire également. Je reconnais également les mérites. Nos anciens parents ont étudié également ces CEPROMAD à l'époque. Et c'était une université ou un centre où on pouvait sentir la formation pratique sur le terrain et beaucoup des cadres d'aujourd'hui ont étudié à ces CEPROMAD également. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut se le dire, le promoteur est là. Je pense qu'il peut faire une auto-évaluation, il ne dirait pas le contraire. Peut-être symboliquement, il le dira. Aujourd'hui, ces CEPROMAD n'est pas ce que nous avons connu datant ou de l'époque. En termes de la rigueur, en termes de la productivité des cadres ou des personnes pouvant également s'employer sur terrain et produire des, créer des emplois et tout ce qui va avec. On se demande qu'est-ce qui est à la base de ça. Mais pendant que je me posais cette question, je me suis dit peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un soutien gouvernemental, par exemple? C'est là où j'interpellais les gouvernements également. Je me suis dit, oui, peut-être. Dans un environnement où il y a l'évolution, c'est promis de rester un peu, on va dire, permettez-moi les termes, un peu ancestral, un peu archaïque, un peu colonial, si on peut le dire également. Alors qu'il y a déjà des mutations évolutives auxquelles ces programmes également devaient faire face également sur le plan numérique, sur les formations numériques, les formations sur le climat et tout ce qui va avec. Je pense que si ces programmes a encore l'intérêt de jouer son rôle, devrait s'intéresser et ne pas refuser cette vérité des mutations évolutives sur le plan numérique, les plans environnementaux, des climats, des biodiversités. On pouvait organiser les formations dans ce sens-là. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect également, il faut reconnaître que il y a des efforts qui sont faits, mais sur le plan pratique, il y a des difficultés sur le plan gouvernemental parce qu'il n'y a pas les gouvernements qui assurent la continuité de ces cadres ou de ces citoyens également. Et cette question ne frappe pas seulement ces CEPROMAD, mais frappe presque tous les étudiants en général, voyez-vous également. Contrairement à ce qu'ils ont dit également par les autres, les témoignages, c'est bien, mais ce sont les efforts personnels. Même dans les universités que nous avons étudiées, il y a des étudiants qui ont aussi également reçu leur vie également, reçu une vie pour créer des emplois. Est-ce que ces taux-là des pourcentages est-il également maximum ou est-il également élevé? C'est ça le problème. D'où moi je pense que le rôle que doit jouer ces CEPROMAD devrait également accepter ces évolutions pour un peu essayer de faire face aux évolutions ou à la modernité aujourd'hui, au métier, mais aussi assurer un suivi, par exemple, en termes de pratiques. Et quand on finit la formation à ces CEPROMAD, on peut passer dans une société, dans une entreprise publique ou privée, pour passer la pratique. Je pense que c'est ce que nous pouvons dire.
Voilà, merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis Lubumbashi. Recteur Oscar Tsamane, vous pouvez réagir à déjà ces réactions.
Merci beaucoup. Je suis heureux d'entendre cet intervenant. Et je les remercie pour les félicitations qu'il avance sur ces pommades, aussi pour les besoins de voir le gouvernement pouvoir intervenir pour donner un coup de main. Et, mais seulement, je vais lui dire qu'il y a un élément, un jugement qu'il a avancé en parlant des formations ancestrales qui, en fait, ne répond pas à la réalité. Je vais lui rappeler ceci. Aujourd'hui, l'enseignement des management stratégiques opérationnels ou l'entrepreneuriat est généralisé. Il y a 8 domaines scientifiques dans notre pays. Dans les temps, on était médecin pour pouvoir injecter des gens. On était médecin pour être médecin, il fallait former un gestionnaire pour venir aider à gérer l'hôpital. Vous savez qu'on ne gère pas l'hôpital avec des seringues. mais on a instauré l'école de santé, management de santé publique, où ce ne sont pas seulement des médecins qui y sont, il y a aussi des démographes, il y a des économistes, il y a tout ça, pour dire qu'il faut ajouter le management, une dose de management dans toutes les sciences qui existent dans notre pays. Ça, c'est l'apport du CEPROMAD. Il a fallu que le CEPROMAD puisse souligner, faire voir l'importance du management stratégique et opérationnel pour que les états généraux de l'enseignement qui regroupent tous les savants de ce pays ici, dans le cadre des réformes institutionnelles, puissent éventuellement généraliser la formation en management et entrepreneuriat. Deuxièmement, les CEPROMAD, une fois de plus. À ce moment, on parle de l'SMH. Dans les temps, il y avait trois universités, il y avait quelques ISP. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Il se fait que le fait que les CEPROMAD avec la NESA aient fait la ronde de tous les pays pour former des petites et moyennes entreprises, au niveau de chaque pays, on a senti la nécessité d'avoir des institutions éducatives et surtout un management stratégique. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? Nous, on parlait des auditoires délocalisés. Mais comme le gouvernement n'a pas voulu de ce concept auditoire délocalisé, on a instauré le système des SMH. Donc, le gouvernement a adopté le système de permettre à chaque ville, chaque province, d'avoir une université autonome adaptée à l'environnement. Ça, c'est aussi l'apport de l'université du CEPROMAD. Dans le temps, quand dans le système PADEM, il y avait une nomenclature des enseignements qu'on devait dispenser pour créer une université. Mais il se fait que, avec l'arrivée du CEPROMAD, il y a eu dans le cadre des réformes, on a ajouté ce qu'on appelle de nouvelles filières. Par exemple, pétrole et gaz, ça n'existait pas dans notre programme universitaire. Par exemple, l'informatique, ça n'existait pas dans notre programme universitaire. Et le management soi-même n'existait pas. Mais actuellement, le gouvernement a dû adapter pour créer même la faculté des gaz et pétrole à l'UNIKIN pour pouvoir localiser la science d'informatique au département des sciences à l'UNIKIN, et le management a pour point focal l'université du CEPROMAD.
Et bien, vous pensez qu'il a autant de rigueur, comme l'a dit Maître Patrick Audiard, la création du CEPROMAD aujourd'hui, puisque vous êtes implanté à travers tout le pays, est-ce que toutes les équipes qui dirigent le CEPROMAD à travers le pays sont toujours dans cette vision originale du CEPROMAD?
Voilà. C'est une très bonne préoccupation. Toute chose a un début et a une fin, bien sûr. Mais en management, on parle de recyclage des cycles de vie d'entreprise. C'est-à-dire une entreprise se crée, ça croît, ça atteint le point zénith, et puis ça commence une descente. Mais au moment où ça commence la descente, au point de vue stratégique, il faut relancer une substitution pour aller de l'avant. Quand nous avons commencé les CEPROMAD, j'étais le seul premier Congolais docteur en management. Le mot management était un mirage. On ne pouvait même pas comprendre. Il y en a qui confondaient ça avec la gestion, qui confondaient ça avec l'administration, etc., etc. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de l'organisation managériale. Tout le monde parle de management. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'impact de ce que nous avons pu faire. Et il y a même quelqu'un, Jean-Marie Kassamba, qui est un grand journaliste, qui à un certain moment on a dit, finalement, l'incompris a été compris après 40 ans. Donc quand j'étais en train de parler de management stratégique et opérationnel, à ce moment-là on ne comprenait pas, maintenant on a finalement compris et ça avance. Voilà les choses sont en train. Est-ce que on a la même philosophie? Évidemment, depuis que j'étais là, j'étais seul. Aujourd'hui, j'ai formé déjà plus de 35 docteurs en management à l'université de Kinshasa, qui est mon université mère. Ça, c'est une évidence, parce que c'est là où je suis installé principalement. Et en plus de cela, quand nous avons formé là-bas, nous étions en même temps en train de recycler les collègues qui étaient dans les domaines différents, mais qui avaient des connexions avec les CEPROMAD. Parce qu'il y a des filières qui font partie du même domaine scientifique. Par exemple, des économistes, des licenciés en sciences politiques et administratives, etc., etc. Eux ont commencé aussi à enseigner le management. Mais grâce à Dieu, et merci pour le gouvernement, il s'est fait qu'en 2018, on a estimé, après tout, qu'on pouvait accorder à l'université de CEPROMAD l'autorisation de former ses propres docteurs en management, management stratégique, management opérationnel. Nous avons commencé, et à ce jour, nous sommes déjà à notre 20e docteur que nous avons formé en propre. Et puis, donc, en plus de tous ceux qui sont venus maintenant de l'étranger, des pays où on enseigne le management, parce que même ceux qui disaient que le management c'était la même chose que la gestion, ont compris que finalement, même en France, il y a des écoles qu'on appelle école de management et école de gestion. C'est qu'il y a une nuance. Là, nous pouvons éventuellement établir, bien que le management fait partie du même domaine scientifique qu'on appelle économie et gestion.
Mais votre professeur, comment réagissez-vous? Alors, il y a cette réaction de Jean-Claude qui nous écrit: chaque année, CEPROMAD produit des diplômés qui malheureusement se retrouvent au chômage comme les autres universitaires. Dire qu'ils sont prêts à entreprendre est une utopie, faute de moyens financiers qui demeurent le moteur de toute création.
Mais je vais vous dire ceci. Si vous me pointez un seul diplômé de l'université du CEPROMAD qui vous dit qu'en entrant à l'université du CEPROMAD, on lui a dit que tu vas chercher de l'emploi, alors à ce moment-là, moi je dirais que notre celui qui demande a raison. Mais dès le départ, quand on se fait inscrire à l'université du CEPROMAD, on dit ne cherchez pas un salaire. Parce que le salaire n'est rien d'autre que c'est un stage professionnel pour pérenniser la pauvreté.
Donc déjà, au départ, lorsque vous arrivez, on vous explique déjà la philosophie.
Oui, tout à fait. C'est pour que vous deveniez entrepreneur. Nous avons ce qu'on appelle incubateur. L'incubateur n'est rien d'autre que une sorte de couveuse, si vous voulez. Mais à ce niveau, au niveau de l'université, où on sélectionne des étudiants qui ont des petits projets qu'on appelle start-up. Chacun suivant sa capacité, on l'encadre. Et nous avons des unités de production au niveau de l'entreprise, au niveau plutôt de l'université, où les étudiants sont en train d'entreprendre, de travailler au même moment qu'ils sont en train d'étudier. Je vais dire, apprendre à monter leur propre entreprise.
Voilà, professeur. On revient à vous, le temps pour nous d'accueillir Julie Fiza Bungona qui vient de faire son entrée dans ce studio. Julie Fiza, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour professeur.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Marcel, il y a beaucoup de réactions. Aujourd'hui, je dirais pas favorable, défavorable, neutre, parce que c'est presque tout le monde qui est favorable, mais il y en a quand même qui émettent des critiques négatives, ce qui est normal aussi. Il y a d'autres qui ont des réactions nuancées. Steve Baouguere, Blaise Saïdi à Toudou, Doria Moukwado, Chrysostome Lebakwa, Patrick Néron Kadiata, pour ne citer que cet échantillon. Il salue l'impact pratique du CEPROMAD dans l'employabilité de jeunes, insistant sur le rôle formateur en entrepreneuriat autonome et en leadership. Il cite des exemples concrets de réussite et voit l'institution comme une solution contre le chômage en RDC. Pour eux, les modèles CEPROMAD méritent d'être étendus et soutenus nationalement. Ceux qui émettent des critiques pointent surtout un déficit de qualité dans la formation CIPROMAD, accusant l'institution de privilégier la quantité des diplômés sur leur véritable employabilité. Il dénonce aussi un décalage entre la formation reçue et les réalités économiques, attribuant en partie la persistance du chômage à l'inefficacité ou à l'obsolescence des contenus pédagogiques du réseau. L'avis que partagent Eugène Paluku, Malonga, Ismaël Mompoyi, Jean-Claude Eyaï, José Onésime Bungana, Georges Fariala, Joël. Ceux qui ont de réactions nuancées reconnaissent les efforts du CIPROMAD pour orienter la formation vers le marché, tout en soulignant que le vrai problème réside dans l'environnement économique et politique défavorable en RDC. Elles insistent sur le fait que l'amélioration constate des programmes en un engagement plus fort de l'État serait décisif pour pallier l'inadéquation formation-emploi. L'avis que partagent Bagenda Mbanga, Christian, Eric Mirendi, Eric Ngandou, Gaston, Jérémy Mwamba. Voilà, Marcel, le condensé de réaction des auditeurs. Voilà. Je vais conclure par une question à laquelle le professeur va répondre. Les modèles CIPROMAD apportera-t-il enfin une réponse durable aux défis d'employabilité et d'adéquation formation-emploi en RDC?
Voilà, merci Julie. Faites un bon goût d'apprentissage. Vous y allez directement. Julie, je vous dis merci.
Merci Marcel, à demain.
Professeur, comment déjà, il y avait des réactions des auditeurs pour réagir, mais aussi à la question de Julie Feza.
Et je vous assure, le modèle du CIPROMAD, c'est un modèle pragmatique qui fait que vous posez la question de savoir est-ce qu'une maman peut nourrir son enfant et quel est le modèle que les mamans congolaises utilisent pour nourrir leur enfant. Alors, quels que soient les modèles, ils finissent par nourrir les enfants, inévitablement. Le problème est de savoir seulement comment nourrir et mieux faire. Donc le modèle CIPROMAD, c'est le modèle le plus pratique pour pouvoir créer des emplois. Parce qu'on part de ce qu'on appelle le management empirique. Qu'est-ce que ces enfants sont capables de faire? Qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux? Quand ils sont dans un environnement aquatique, on ne va pas commencer à devoir implanter là-bas la formation en droit dans un milieu riverain. Vous voyez ça d'ici. Alors, quand par exemple les milieux touristiques, il faut que la formation puisse éventuellement une formation adaptée à cela. Quand c'est un milieu minier, etc., etc. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous nous apercevons que on a des facultés de droit partout au Congo. On a des facultés de sociologie partout, etc., etc. Mais on ne dirige pas une entreprise en juriste. On ne dirige pas une entreprise en sociologue.
Il faut absolument le management.
Il faut management.
Professeur,
on dirige ça en manager. Parce qu'on se développe. La petite et moyenne entreprise, ce qu'on appelle l'informel, doit être transformée en start-up et transformé en petite et moyenne entreprise.
On revient à vous, professeur, le temps d'accorder la parole aux
dernier. Il y a quelqu'un, je vous en prie,
rapidement,
il y a quelqu'un qui a parlé que de la priorité qu'on donne à la quantité. Non, ce n'est pas nous qui imposons aux étudiants de venir. Ce sont des étudiants, ce sont des parents qui découvrent les secrets du CIPROMAD, qui envoient...
Et qui envoient leurs enfants...
Alors qu'ils viennent...
Exactement. On va prendre le
Allez voir à la faculté d'histoire, en histoire, en langue. Il y a combien d'étudiants là-bas? Il a fallu ajouter peut-être ce qu'on appelle l'anglais, je ne sais pas, d'affaires, ainsi de suite, pour que la faculté puisse vivre.
Voilà, c'est bien dit, professeur. On va prendre le toit, dernier auditeur, puis on reviendra à vous. Mm-hmm. Pour conclure, nous avons Jérémy Mwamba, qui est à Lubumbashi, Blaise Saïdia, qui s'en gagne, Rovin Matiti, à Bandundu. Jérémy Mwamba, vous avez 2 minutes. Allez-y rapidement, Jérémy, on vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à l'éminent professeur, que je salue chaleureusement au regard de la matière qu'il étale par rapport donc c'est-à-dire au centre de promotion en management et développement. Et je suis vraiment très flatté de la manière dont il étale les choses pour nous dire que dans moins de 4 mois, déjà l'étudiant est à même de définir les objectifs. C'est tout ce qu'on attendait. Monsieur Marcel, c'est vraiment étonnant de voir que notre programme que nous avons dans les universités, voire institutions supérieures, en tout cas, c'est la nuit et les jours avec ce que les professeurs sont en train d'étaler là-bas. Moi, je peux vous donner un exemple.
Rapidement.
Je passe 5 ans à l'ISP, je n'ai vu aucun cours en management. Mais quand je suis allé à l'ISC, c'est un cours qui est donné en G3, hein, donc c'est-à-dire au niveau des graduats. Et parce que j'ai connu un professeur, je ne sais pas, docteur Capente. Mais quand vous regardez ce terrain, qu'est-ce qui se passe exactement? Les étudiants ne définissent pas clairement les objectifs. Les professeurs qui leur donnent cours ne leur montrent pas qu'après les études universitaires, on est à même de créer de l'emploi, mais on laisse les étudiants comme ça. Et quand vous regardez, quand ils vont dans les stages, c'est les stages subjectifs. Et comment voulez-vous que les étudiants arrivent à se créer de l'emploi? Et vous voyez, c'est ça ce que nous disons.
Merci.
Aujourd'hui, ça se bouscule en politique entre les professeurs eux-mêmes qui sont censés montrer l'orientation chez les étudiants.
Merci.
Ça se bouscule
Jérémy
en politique,
Mamba, on n'a plus assez de temps. Vous pensez que le système Sapomade, c'est un système encouragé pour ce qui est de l'enseignement? Merci d'avoir appelé depuis le Bombashi.
Il y a un élément très important.
Attendez, professeur, si vous ne pouvez pas attendre. Blaise Saïdi, vous appelez de Kisangani. On vous écoute, Blaise. Désolé, on court derrière le temps. Dites-nous l'essentiel en une minute. On vous écoute, Blaise Saïdi.
Oui, merci, cher Marcel. Merci. Donc, j'essaierai trop bref, puisque il y a aussi une personne derrière moi.
Oui.
Et laisser aussi le temps au professeur de conclure. Mais néanmoins, cher Marcel, au regard de la situation de ces promades, il y a plus ce problème de l'impact réel conditionné pour l'amélioration de l'environnement socio-économique, le soutien financier aux projets et la régulation de la qualité de l'enseignement afin de maximiser les retombées positives sur l'emploi. Mais une question que je demande à l'invité,
oui.
Quelle stratégie pourrait renforcer l'impact de ces promades sur la réduction du chômage
en RDC. Merci, Blaise Saïdi. Merci beaucoup, Blaise Saïdi. On a compris votre question. On prend le tout dernier. Rovin Matiti, depuis Bandundu. Rovin, en une minute, une question, peut-être un commentaire. Allez-y rapidement.
Merci beaucoup, M. Marcel. Et bonjour à l'invité, le professeur Emérite Saman, qui est au plateau de la radio Capi. Je pense que le sujet est tellement pertinent, du fait que les amis ont déjà donné leur contribution, mais toutefois, j'ai quelques observations à faire. Vous savez que
rapidement, oui.
l'avenir des étudiants congolais est en proie du fait que les formations académiques vivent avec les réalités trouvées sur place. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a terminé, qui a une licence dans tel domaine, mais qu'il arrive dans une entreprise, on ne le prend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de compétences. Alors, ce que ce programme est en train d'apporter, c'est vraiment quelque chose d'encourageante, mais ce qu'il faut faire au-delà de cela, l'État devrait également accompagner des opérateurs qui sont dans des secteurs privés tels que ce programme. Est-ce que ce programme a maintenant un encouragement, soit un accompagnement de l'État? Je ne pense pas. L'État devrait accompagner.
Voilà, merci Rovin. On va s'arrêter par là. Voilà. Le professeur va réagir rapidement. Désolé. Merci d'avoir appelé depuis Bandundu. Professeur, rapidement, vous réagissez par rapport à ces deux questions. Les stratégies, vous comptez mettre pour ces promades, pourraient bien mettre en place pour résorber les chômages de diplômés en RDC. Vous avez également suivi, si vous pensez que vous avez les soutiens de l'État congolais.
Les stratégies, quelles sont ces promades doit mettre en pratique n'est rien d'autre que, un, de transformer les systèmes de transfert de connaissances en transfert de compétences. Le programme que nous avons suivi jusque-là, c'est un programme qui forme des chômeurs. 2000 étudiants diplômés des facultés de droit, qu'est-ce qu'ils deviennent 2 mois, 3 mois après? les médecins, diplômés, après, on se retrouve avec 120 médecins pour un lit sur cabine, etc., etc. Pourquoi? Parce que il y avait ce qu'on appelle transfert des connaissances, le copier-coller, faites comme moi, parlez le français comme moi, vous êtes considéré comme savant, alors que la science n'est pas seulement française. Mais transfert de compétences, c'est-à-dire nous référer, prendre ce que nous avons comme connaissance, nous appliquons ça à notre culture, à notre environnement, pour voir comment il faut faire pour qu'on puisse pouvoir tirer connaissance vite. C'est un peu le système de BRICS qu'on a dit, faire un déviationnisme positif, adapter ça. Mais qu'est-ce qui se fait? Quand un enfant parle mal français, tout le monde dit qu'il est inculte. Mais seulement, on sait que si on parlait en lingala, on s'exprimerait mieux. Par exemple, ici, là, vous voyez, on est en train de parler des problèmes politiques, ainsi de suite. Mais les gens sont en train de crier tout simplement en français et qu'on sort. Mais quand vous dites comment on appelle stratégie à Kimongo, stratégie, accord stratégique. En Kimongo, c'est quoi? On n'a jamais formé.
Pour la personne, professeur,
le chômage.
Professeur, oui. C'est déjà une stratégie. Vous avez parlé des transferts de connaissances, en transfert des compétences. Maintenant, le soutien. Il faut réagir rapidement. On est vraiment à la fin. Le soutien du gouvernement.
Le soutien du gouvernement. Moi, je dirais que jusqu'ici, mon gouvernement, du moins mon autorité de tutelle, a fait ce qu'il pouvait éventuellement faire pour soutenir les universités privées, les CEPROMAD. Quand j'ai dit université privée, moi-même je suis président d'une université privée.
Oui.
Mais toujours est-il qu'il y a un danger. Le danger, c'est la tendance à la nationalisation. Ce qui fait que certaines universités, confessionnelles surtout, ne veulent pas de la nationalisation, et comme nous-mêmes, nous ne voulons pas de la nationalisation, parce que si on allait nationaliser les CEPROMAD, on n'aurait pas pu apporter ce qu'on a apporté.
Oui.
Mais il y a de l'injustice, bien sûr. L'injustice, c'est quoi? Aujourd'hui, on marque, il y a des bus Academia. Quels sont ceux qui entrent dedans? Est-ce que ce sont seulement des étudiants, des publics ou des privés? Par exemple, c'est-à-dire que l'État peut éventuellement aider, nous allons demander, on va demander davantage, mais déjà nous remercions la compréhension dont on a fait montre et on nous soutient.
Voilà. Merci beaucoup. Professeur Emérite Toscan Samanoloto, recteur magnifique et président du conseil d'administration des universités du CEPROMAD. Merci d'avoir été dedans. On est vraiment à la fin.
Oui, je sais qu'on est là.
Fin de ce magazine. De parole aux auditeurs, merci à toutes, à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. Au revoir à toutes et à tous.